Le soir, pour réserver les moments de solitude qui sont si nécessaires, j'allais rôder de mon côté. Un cahier sous le bras, je passais l'eau et remontais l'avenue Nemanjina, noire et déserte, jusqu'au Mostar, un bistrot paisible, éclairé comme un paquebot, où tous les pays bosniaques se retrouvaient pour entendre leur magnifique musique à l'accordéon. Je n'étais pas plutôt assis que le patron m'apportait un godet d'encre violette et une plume rouillée. De temps en temps, il venait voir par-dessus mon épaule si la besogne avançait. Qu'on puisse couvrir une page d'affilée lui paraissait prodigieux. À moi aussi. Depuis que la vie était devenue si divertissante, j'avais le plus grand mal à me concentrer. Je prenais quelques notes, comptais sur ma mémoire et regardais autour de moi. Il y avait d'impérieuses fermières musulmanes qui ronflaient sur les banquettes entre leurs paniers d'oignons, des camionneurs au visage grêlé, des officiers assis tout droit devant leurs verres qui tripotaient des cure-dents ou bondissaient pour vous offrir du feu et tenter d'engager la conversation. Et chaque nuit, à la table voisine de la porte, quatre jeunes putains qui mâchaient des graines de pastèque en écoutant l'accordéoniste caresser d'arpèges délirants son instrument flambant neuf. Elles avaient de beaux genoux lisses, bronzés, un peu terreux lorsqu'elles venaient d'exercer leurs offices sur un talus du voisinage, et de fortes pommettes où le sang battait comme un tambour. Parfois, elles s'endormaient d'un coup, et le sommeil leur rendait un air d'extraordinaire jeunesse. Je regardais ces flancs tendus de cotonnade violette ou vert pomme soulevés par un souffle régulier. Je les trouvais belles à leur manière brutale et troublante, jusqu'à l'instant où elles s'ébrouaient et se raclaient abominablement la gorge avant de cracher dans la sueur. Au retour, la sentinelle du pont me cherchait parfois querelle. Le type nous connaissait pourtant bien, mais notre insouciance l'aigrissait, et il exerçait la seule vengeance à sa portée. Faire perdre un moment aux passants. Il balançait lourdement sa tête tondue, fleurant l'ail et le raquis, et demandait des permis imaginaires. Mon passeport étranger me permettait de m'en tirer sans peine et de passer outre, mais sa rogne ne désarmait pas, et Vlada, qui franchissait le pont bien après nous, et très souvent en pompette, en subissait les conséquences. Il était en train de sauter comme un gosse d'une traverse à l'autre en pensant à la peinture merveilleuse qu'il pourrait faire s'il n'était pas Vlada, s'il n'avait pas grandi ici, si... Quand la voix de la sentinelle le ramenait brutalement sur terre, il se fâchait et, par bouffées, l'écho de leur querelle parvenait jusqu'à l'atelier. « 500 dinars d'amende !» glapissait le soldat que Vlada, d'une voix obstinée, renvoyait aussitôt dans le ventre de sa mère. Puisque le monde était si dur, la sentinelle n'allait pas laisser passer ça. On l'entendait hurler « 5 000 !» Un silence abattu succédait à ce chiffre, puis les pas traînants de Vlada dégrisé qui regagnait la maison à travers les hautes herbes et venait gratter à notre porte. Il maudissait son emportement. Avec ce qu'il gagnait par mois, jamais il ne pourrait payer. Demain, il faudrait retourner au poste, s'excuser, faire la bête, arranger les choses avec des finasseries de paysans et une bouteille de pruneaux dans la poche. Nous le réconfortions tant bien que mal, mais ces soirs-là, la ville nous tombait dessus. On aurait voulu balayer d'un revers de main les misérables appentis de la zone, la grosse haleine des miliciens, la pouillerie tragique des uns, la lenteur soucieuse des autres. Nous avions soudain besoin de regards heureux, d'ongles propres, d'urbanité et de linge fin. Au pochoir, Thierry peignit 2 couronnes sur les quarts de fer blanc avec lesquels nous trinquions. Ce fut notre seule forme de sédition. D'ailleurs, nous étions rois.